Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step, un nouveau Step Story. Je suis aujourd'hui avec Henri et AB de Alcool.
Bonjour.
Salut Bastien.
Écoutez, bah merci de me recevoir déjà à Station F aujourd'hui. On est là pour parler de Alcool, donc votre boîte que vous allez lancer très bientôt. Est-ce que vous pouvez me présenter le concept en 10 secondes?
Aujourd'hui, on passe 2 ans de notre vie en gueule de bois. Alors, on a créé Alcool, une petite boisson sans alcool à boire une fois en fin de soirée pour dire adieu aux maux de tête, aux douleurs à l'estomac et à la fatigue.
Ok, donc en 3 mots, la solution, c'est de répondre aux besoins de la gueule de bois.
Exactement.
En gros, le concept, c'est on boit cette boisson avant ou après de s'alcooliser. Et en buvant cette boisson, on va réduire la gueule de bois le lendemain. Le but, on va en parler de comment ça vous est venu cette idée, mais le but, c'est de réduire la gueule de bois le lendemain d'une soirée.
Pour revenir de façon précise sur ce que tu nous demandais, le mieux, c'est de le prendre en fin de soirée, si tu veux. Donc, c'est une boisson détox. Le but, c'est d'agir sur ton être, pardon. Et donc pour ce faire, il faut que tu prennes pas d'alcool derrière quoi. Sinon, il va y avoir un problème entre les ingrédients qui vont venir agir et l'alcool qui va venir les tabasser.
Ok, bon. Ok, on a compris le concept, on va revenir juste après. Maintenant, moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus à propos de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre âge, ce que vous avez fait en termes scolaires, depuis combien de temps vous vous consacrez à ce projet et ensuite on va parler de où vient ce projet.
Alors moi, je suis Henri, donc je viens du sud de la France, de Perpignan, je suis catalan. J'ai fait une classe préparatoire classique pendant 2 ans à Paris et puis après j'ai intégré une école de commerce.
Et donc moi c'est Antoine Baptiste Leonetti, donc AB. Je suis d'origine corse, j'ai fait mes études aussi à Paris. J'ai commencé par l'université Paris Dauphine sur un diplôme de maths info. Et derrière j'ai fait une licence d'économie appliquée, parcours ingénierie financière.
Ok. Alors maintenant, moi j'ai envie que vous me disiez, que vous me racontiez comment est venue cette idée de boisson, même si on s'en doute un petit, on commence à s'en douter un petit peu. Comment est apparue cette idée de business de faire une boisson pour réduire la gueule de bois?
Alors, donc l'origine de cette boisson qui est assez rigolote. Henri et moi, on s'est rencontrés très rapidement au sein de l'EDEC parce qu'on joue tous les deux au rugby.
On adore ça.
Donc et puis dès les premiers entraînements, on a sympathisé quoi. On a sympathisé, on a commencé à faire des troisièmes mi-temps ensemble.
Ouais.
Et je pense qu'il y a un truc qui nous rapproche beaucoup, Henri et moi, c'est qu'on a envie de constamment faire des choses de notre vie et on a toujours voulu monter un projet. Et donc on en parlait. Et puis je sais pas, il y a eu une troisième mi-temps qui a peut-être été un peu plus créative et un peu plus arrosée.
Un déclic.
Et Henri est venu me voir en me disant écoute, il y en a marre qu'on se réveille comme ça chaque lendemain matin, montons un truc et si tu veux on le monte ensemble. Et bah écoute, à partir de là je pense qu'on a été tous les deux carrément d'accord pour le faire et on s'est engagé à fond depuis octobre 2019 du coup.
Ouais, exactement.
Ouais, c'est ça.
Ok, donc vous aviez tous les deux cette envie de créer une boîte, ce mindset d'entrepreneur à la base, donc vous avez fité là-dessus. Ok, donc moi j'ai envie de comprendre maintenant comment on passe de parce qu'in fine vous étiez en tout cas étudiant, comment vous êtes passé de 2 étudiants qui avaient vraiment une idée en plus dans une période de, on va dire très créative, à des personnes qui vont vraiment être dans l'exécution, vraiment commencer à créer un produit. Comment vous avez commencé à réfléchir au produit, parce que en plus de ça c'est une boisson, donc c'est assez alimentaire, c'est assez compliqué à mettre en place, c'est quelque chose avec lequel on peut pas trop rigoler. Parce que c'est quelque chose que les consommateurs vont ingérer, vont boire. Comment vous êtes passé dans l'exécution en mode, ok, on va faire cette boisson, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, où on va la fabriquer, comment on va la fabriquer, voilà.
C'est vrai que ça paraît compliqué de faire une start-up dans le complément alimentaire pour des étudiants d'école de commerce. Mais en fait, c'est pas du tout compliqué, ça, c'est compliqué juste en apparence. Mais j'ai envie de te dire, Bastien, qu'il suffit simplement de se mettre au boulot. D'avoir cette idée en tête d'essayer de révolutionner une approche autour de la gueule de bois pour ensuite prendre les problèmes à la lettre. Et c'est uniquement, et ça c'est un vrai conseil, c'est uniquement en prenant les problèmes pas à pas que tu peux arriver à créer un produit. Parce qu'effectivement, on connaissait au début, il y a un an, pas tellement la médecine, que ce soit voilà, les ingrédients qui y sont présents, et on a simplement appris à les découvrir et on a pu rencontrer, donc là on va t'en parler, un laboratoire qui nous a largement accompagnés pour créer cette recette unique grâce à eux.
Ok, donc c'est un labo qui vous a un peu aiguillé sur ce que vraiment vous pourriez mettre dans cette boisson pour répondre à ce besoin-là. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette boisson?
Alors oui, c'est le labo qui nous a aiguillé. Juste pour rebondir sur ce que disait Henri, donc sur vraiment prévoir à chaque fois ce que tu fais et où tu vas, qui est vraiment une chose importante quand tu montes ta boîte, même si tu as toujours des surprises. La première chose, nous, ça a été de chercher, en fait, quels sont les remèdes typiques de la gueule de bois. Donc, comment ça s'est passé? Un beau matin, peut-être pas le lendemain,
non, après fatigué,
cette première
ouais.
soirée, mais quelques matins après, on a commencé à chercher. Et donc, Internet, qui est un outil magnifique quand même, nous a apporté plein de documentation. Et parmi celles-ci, nous sommes tombés donc, sur un article de la poire de Nashi, donc qui est une poire qui est produite en Corée et en Japon, et qui nous indiquait en fait, si vous, que c'était un peu un remède miracle contre la gueule de bois suite à une étude scientifique. Et donc nous, on a décidé de creuser un peu cet article et de creuser le marché coréen. De là, nous avons découvert, si tu veux, que le marché coréen était très habitué à ce type de boisson contre la gueule de bois, que c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de prendre. Et donc pareil, on a continué nos recherches, on a cherché les différents laboratoires qui étaient à même de proposer ce produit, et on est tombé sur le laboratoire leader, je dirais, en Corée du Sud. Et c'est de là où nous avons commencé à rentrer en contact avec eux, à discuter de notre projet et à construire une recette ensemble qui a mis plusieurs mois de R&D.
Ok, moi t'as fait une belle transition parce que c'était ma prochaine question. Ma prochaine question, c'était, alors, bon, le besoin, on sait qu'il existe, voilà, ouais. Parce que personne n'est Superman pour résister à l'alcool le lendemain d'une soirée, en tout cas assez arrosé, mais c'est comment vous avez vérifié votre marché, en fait, prendre la température, parce qu'on sait que le besoin existe, mais la solution que vous pouvez apporter n'est pas forcément la bonne, ou en tout cas celle que les gens recherchent. Donc là, tu m'as dit, toi, que le marché coréen, sud-coréen, était déjà, on va dire, c'était déjà approprié cette solution sous forme de boisson. Donc pour vous, c'est une confirmation un peu que le business est répétable. Même si on sait que ça peut changer, c'est divers en fonction des cultures et des populations. Mais pour vous, c'est déjà une première validation d'un autre marché. Ça, pour vous, je pense que ça a dû être pas un soulagement, mais super intéressant, super pertinent pour vous. Ça vous a un peu, ok, on n'est pas fous, voilà, les gens, ils consomment ça depuis des années.
Okay. Oui, ouais, carrément, on partait pas de zéro en sachant ça. Ouais.
Et je pense qu'une autre chose qui a confirmé notre marché et qui a été énorme, si tu veux, nous, pour être sûr qu'il y avait un marché, donc on était sûr qu'il était en Corée du Sud, on voulait vérifier qu'il y en avait en France. Et donc, à l'issue de cette idée que nous avons eue ensemble avec Henri, on a décidé de postuler au programme Startup Boost de EDEC. Ok, donc on avait littéralement, je crois, 3 semaines pour préparer un pitch, autant de notre projet. Et donc ce pitch, justement, c'était de montrer à EDEC, on arrive avec une idée que tout le monde veut créer, mais il y a vraiment des gens qui la veulent. Il y a vraiment des gens, il y a une demande en France et on ne va pas monter ça pour rien. Donc on a créé à partir de là un Google Survey, je crois, qu'on a inondé à genre 300 personnes, tout notre entourage, on a contacté. Mais alors là, sur les tranches d'âge, on allait du 20 aux 60 ans.
Un peu une étude de marché de terrain, quoi, avec un truc.
Ouais, c'est exactement ça. Et on avait une dizaine de questions. Et donc là, ça a été, quels sont vos mots pardon, quels sont un peu les ressentis que vous avez en lendemain de soirée? Ce qui sortait le plus, c'était, oh, moi j'ai mal à la tête, moi j'ai mal au ventre. Moi, je suis fatigué. Ok, très bien. On avait nos 3 critères. Quel serait pour vous le produit idéal? Bah, moi, j'aime pas trop les cachets. Moi, je préfère une boisson. Ça a un bon goût. Ok, on part sur une boisson. Quel serait pour vous le prix idéal? Donc là, sur les prix, tu vois, on a eu des fourchettes très intéressantes. Ça nous a permis un peu de savoir où est-ce qu'on allait pricer notre produit. Donc, on a eu différentes fourchettes de prix. Ce qui a été intéressant, c'est de voir que pour un produit pareil, on n'était pas sur des prix minimes. C'est-à-dire que je pense que notre fourchette moyenne était autour de 7-8 euros. Et on a ensuite fait une étude, parce que ça, c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour Henri, autour du goût, en fait.
Nous, important.
Voilà, on leur a proposé différentes saveurs. Et donc, on a eu les 3 goûts que nous avons testés. C'était framboise, citron et citron menthe. Enfin, citron jaune et larme de menthe.
C'est celle qui a été retenue.
Et là, on s'est un peu, on se cache pas derrière ça, mais on a un peu copié ce qui marchait, et notamment la fameuse limonade de Michel et Augustin, qui s'intitule l'incroyable limonade aux 2 citrons et larmes de menthe. Et effectivement, 85% de ceux qui étaient interrogés à travers le Google Survey ont décidé de choisir citron et larmes de menthe.
Moi, ma question, c'était du coup, comment vous avez un peu, power up votre projet en mode, ok, on a un truc, on va sonder notre marché, mais on veut vraiment passer déjà un peu à l'étape supérieure, le montrer à des personnes, avoir des avis qualifiés, de personnes un peu du secteur, etc. Un deuxième échantillon de marché, deuxième prise de température, raconte-moi un peu comment ça s'est passé.
Alors, je dirais qu'en fait, nous, on est parti un peu sur, il y a un modèle qui s'appelle Lean Startup de Eric Ries, ok.
Je sais pas si c'est un livre, oui, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ce mec t'explique que pour construire ton produit, il faut te confronter à ton marché. Et donc, nous, on est vraiment parti sur ce modèle-là avec Henri. Donc, si tu veux, une fois qu'on avait eu cette réponse des 300 personnes, on a commencé à développer à fond la recette avec les Sud-Coréens. Et derrière, on s'est dit, bon, bah, on a notre recette. Maintenant, nous, on est sûr qu'elle marche, mais on veut voir si elle marche chez les autres. Okay ? Parce que quand tu crées un produit, c'est toujours pareil. T'es à fond dedans, t'y crois. Donc, t'es un peu biaisé. Et le but, c'est d'aller voir si les autres aussi y croient et si ça marche vraiment vers eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élu une trentaine de personnes. Ces personnes-là, si eux, c'était des personnes pour nous qui étaient prêtes à s'investir dans notre projet parce qu'elles nous ont apporté énormément. Mm-hmm. Et ça a été notre premier noyau fort, notre première communauté. Elles n'ont pas été obligées de s'engager. On leur a demandé en amont, voilà, est-ce que vous êtes prêts à venir nous voir, à venir échanger avec nous, à participer
Un peu comme des early adopters ou des bêta testeurs sur quand on sort un produit un peu tech, voilà, comment, est-ce qu'ils aiment la navigation, est-ce qu'ils aiment l'ergonomie, vous c'était un peu ça sur la boisson, sur le concept.
C'est exactement ça. Et ça, en fait c'est important d'avoir cette communauté autour de toi, parce que tout d'abord c'est ton premier soutien, et quand t'as des gens qui te soutiennent, bah, tout de suite t'as envie d'y croire encore plus, parce que t'as souvent des coups de mou. Et c'est des mecs qui vont aussi participer, donc quand je dis soutien, c'est aussi vont participer à, comment dire, à parler de ton produit, tu vois, à le relayer. Et donc on les a fait venir au sein de l'incubateur avec Henri pour leur faire essayer les 30 échantillons que nous avions commandés avec les Coréens.
Ok, donc déjà là, vous aviez passé une commande, donc ça veut dire que vous aviez un produit, vous aviez une boisson qui avait été réalisée en partenariat avec un labo coréen. Vous l'avez fait produire où, la boisson ?
Alors ouais, eh bien c'est dans le laboratoire coréen tout simplement.
Ils vous ont fait la boisson.
Exactement, ah ils nous ont d'abord créé donc cette recette qui est unique, et ensuite ils nous ont envoyé 30 bouteilles.
Il n'y avait pas de packaging, il n'y avait rien du tout.
Alors non.
C'était vraiment, il y avait du liquide dans ce truc en plastique quoi.
Pas en plastique, en verre, mais effectivement la bouteille était brute et il y avait simplement des étiquettes avec les trois goûts qu'on a,
d'accord,
on a parlé la dernière fois.
Ok. Et ça a pris combien de temps entre contact du labo et l'envoi des premiers échantillons? Combien de temps?
Ça a pris 3 mois jusqu'au contact et ensuite 1 mois d'acheminement.
Ok, 4 mois. C'était
4 mois, ouais, 4 mois on est attendu.
Plutôt rapide. Quand on débarque du jour au lendemain devant un labo sud-coréen, je sais pas si c'est plutôt rapide, mais ça me paraît pas très long en tout cas.
En fait, je pense que là où on a réussi à être plutôt bon avec Henri, c'est qu'on a target le laboratoire qui était spécialiste là-dedans.
Vous avez pris le bon labo. Voilà. Vous étiez allé voir n'importe quel autre labo, vous aurez perdu du temps. Ah et ouais. Peut-être, ouais, ok.
Je pense qu'une erreur qui est, pour rebondir sur ce que disait encore tout à l'heure Henri, où tu réfléchis toujours à là où tu vas et aux steps qu'il faut faire, c'est être un peu minutieux, si tu veux, dans tes choix et tes prises de décision. Même si parfois l'entrepreneuriat, bah, faut y aller, tu vois. Il y a d'autres moments où faut, sur des choses aussi importantes, c'est-à-dire que ce laboratoire, c'est le mec qui va nous accompagner sur toute notre aventure, quoi. Et donc, tu peux pas te permettre...
C'est un partenaire clé, maintenant.
Voilà, okay. c'est le mec... dont on a besoin tout le temps, tu vois. Et tu peux pas te permettre de prendre n'importe quel type. Et donc on a fait une grosse étude là-dessus. Et si tu veux, lui quand on lui a dit bah voilà, nous il nous faut une boisson comme ça, il a dit bah moi c'est, y a pas de souci, moi je sais faire ça, je t'envoie ça et tu me dis ce que t'en penses. Et donc ça allait assez vite. Après on reviendra plus tard sur parce que encore une fois il y a une chose entre importer un produit quand c'est 30 échantillons et il y a l'autre étape où tu dois le commercialiser en France et là tu commandes 10 000 bouteilles. Là la France est à un regard tout autre. En fait, sur la validité de ton produit.
Alors, deux questions, sans me donner de chiffres, etc. Mais c'est quoi le coût financier de faire importer 30 boissons auprès d'un labo en France de Corée? En termes, en une fourchette, si tu veux.
Bah, c'est plusieurs milliers d'euros, tout simplement.
Ok, d'accord. Non, mais tu vois, c'était le but de ma question.
Coût de production, et ensuite, effectivement, tu as les coûts de frais, donc par bateau,
okay.
Qui est 10 fois moins cher que l'avion, mais qui reste quand même assez conséquent, puisque là, par exemple, les 10 000 bouteilles, ça représente 2,5 tonnes à importer. D'accord. Donc, ce n'est pas négligeable.
Donc, assurance, comme tout ce qui va avec le frais.
Exactement, ouais. C'est pour ça.
Ok. Et ma deuxième question, c'était, du coup, quand on importe, tu m'as dit 2,5 tonnes, de produits venus de Corée du Sud, comment ça se passe avec la France? Bon, on se doute qu'il faut tout déclarer, il faut prouver la provenance, qu'est-ce qu'il y a dans les trucs, mais comment ça se passe vous, votre approche? Je pense que vous n'avez jamais eu affaire à la douane, au service de frontières, à ce point-là en tout cas, d'importer un truc de 2,5 tonnes. Comment vous vous êtes senti par rapport à ça? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait vos démarches? Bon, je pense que c'est assez facile parce que on dit ce qu'il faut faire, tu payes et ça rentre. Mais voilà, comment vous avez fait
On dirait que c'est facile en apparence, mais encore, c'est l'avantage de l'entrepreneuriat. C'est de découvrir de nouveaux domaines. Et là, en l'occurrence, le domaine donc, des compléments alimentaires, puisque ce qu'on vend est un complément alimentaire, eh bien, on a pu s'y intéresser et apprendre énormément de choses là-dessus. Et notamment, on a dû obligatoirement établir un dossier que l'on devait déposer à la DGCCRF, donc c'est l'instance en France qui gère tout ce qui est complément alimentaire notamment. Et c'était un très long dossier, donc on a mis plusieurs mois à le faire, parce que notamment on n'avait pas cette formation-là. Et on a dû donc échanger avec notre laboratoire basé en Corée du Sud constamment des messages sur tout simplement les noms botaniques des ingrédients, les quantités exactes, comment c'était extrait sous forme de poudre, sous forme de liquide. Et tout ça, c'était hyper important pour la DGCCRF. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Mais on en est vraiment satisfait parce qu'on a vu comment se déroulait ce marché autour des compléments alimentaires.
Et si je peux me permettre, juste pour rebondir là-dessus, ce qui était assez énorme, c'est que quand tu es une jeune start-up et que tu viens sur des marchés un peu administratifs, donc que sont cette entité qui est la DGCCRF ou les douanes, en fait, tu es dans un choc des cultures. Parce qu'eux, ils sont, sans cracher sur le dos, quoi que ce soit, parce que ce sont des systèmes, de toute façon, s'il faut les mettre à jour, ça demandera énormément d'investissement et de travail. Mais ce sont des procédures qui sont très longues et qui sont très fastidieuses. Et nous, c'est vrai que là-dessus, en fait, ça nous a demandé d'être minutieux et d'être vraiment calme, parce que t'as pas le droit de te louper. Et parce que c'est vraiment très très technique.
En gros, c'est pas des démarches qui sont simples, tout n'est pas fait pour vous faciliter la tâche. Mais après, on peut le comprendre quand même parce que ça reste de l'import de produits qu'il faut le tour du monde. Voilà, on peut pas non plus rigoler avec ça, mais c'est vrai que voilà, c'est des démarches qui sont standards. On peut pas rigoler, on peut pas contourner, on est obligé d'y passer. Et puis tout le monde passe par là, que ce soit une start-up ou un grand groupe, on est obligé de s'y plier. Et c'est vrai que c'est ni facile ni simple et on fait pas tout pour nous faciliter la tâche. Mais ouais, effectivement. C'est une bonne remarque parce que c'est un truc qui peut être un frein, encore une fois. Parce que si on faille le dossier ou si on n'a pas un élément qui rate, on peut avoir notre truc qui est prêt à être importé. Si on a ce mur en verre, ce plafond de verre,
c'est impossible. Douane,
c'est clairement ça déjà. Et en fait, si tu veux, nous, il nous est arrivé, bon, maintenant on peut en rigoler, mais déjà on a mis beaucoup de temps à trouver quelle était cette instance, la DGCCRF, parce que je sais que sur internet, importation de compléments alimentaires, franchement, va trouver comment ça se passe.
J'imagine.
Et un truc assez drôle qui nous est arrivé. C'est qu'on a failli passer notre première commande il y a 5 mois de cela. Donc une commande de 10 000 bouteilles.
On était très très motivés, ouais.
Et ouais, on était, enfin tu vois, quand tu passes ta commande, c'est un peu l'aboutissement de ton rêve. Sauf qu'après quelques vérifications, on n'avait pas obtenu notre autorisation de mise sur le marché. Et si tu veux,
donc les produits auraient été
bloqués en douane, tout simplement.
Détruits, ouais. Peut-être bien.
Et ouais,
ou alors payer deux fois le prix de l'import. Pour débloquer les produits, quoi.
En fait, je peux même pas les débloquer. Tu payes du stockage tous les jours jusqu'à ce que tu aies le papier qui arrive en douane et qui dise ça peut venir, tu vois. Donc, c'est là encore une fois où aujourd'hui ça fait un an qu'on développe notre boîte, donc on est à même d'être beaucoup plus structuré sur ce qu'on fait. Mais il y a 6 mois de cela, par exemple, ça nous est arrivé de faire des petites bêtises comme ça. Enfin, là, ça aurait pu être une grosse bêtise. Mais...
Tu m'as permis de. Vous avez fini, on peut enchaîner sur la suite où il n'y a plus rien à rajouter en termes par rapport au labo, par rapport à l'import. Alors moi j'avais une question, une toute petite question auquel on peut répondre assez vite. Du coup, les 30 bouteilles, les 30 premiers échantillons, même vous les découvrez en termes de saveur pour la première fois. Et c'était quoi la réception en tout cas de ces bêta users, de ces 30 personnes du coup qui ont goûté quasiment en même temps que vous? C'était parce que si c'était dégueulasse, vous aurez clairement eu les boules parce qu'on paye des milliers d'euros pour faire un truc, on se tue pour faire un truc, si c'est dégueulasse. Comment ça se passe là?
Mais même si ça avait pas un très bon goût, je pense qu'on aurait continué, franchement.
Sûr, mais ça aurait été un méga frein dans le sens où en fait, vous aviez pas pu goûter votre produit avant de le faire goûter aux autres. C'est ça le truc. Enfin, si, bien sûr, mais une fois qu'il arrive en France, il arrive en France et pour vous, c'est pas possible de le renvoyer en Corée du Sud en 2 heures pour qu'il revienne le lendemain, quoi.
Ouais, effectivement. Donc je me souviens, on était à l'EDEC au moment où on a reçu le fameux colis contenant les 30 bouteilles. Donc on était très excités. Et avec AB, on s'est rejoint donc à l'incubateur, on l'a ouvert et on a découvert donc les 30 bouteilles brutes. Et justement, ce soir-là, on avait une soirée. Donc on s'est dit franchement, c'est parfait. On va goûter notre produit.
Et le tester
effectivement pour voir ses effets. Et donc là, en pleine soirée, vers minuit, on s'est dit, allez, c'est le moment idéal pour le prendre. Et au moment d'ouvrir la bouteille, on vivait comme un rêve. Mais après, effectivement, le goût est délicieux. Vous allez voir, citron et larmes de menthe, c'est vraiment hyper bon en bouche. Ça vous rafraîchit la bouche, c'est très agréable. Et on a été agréablement surpris du goût.
L'odeur qui sortait quand on ouvre la boîte direct. et la saveur. Pour vous, ça a été une découverte, mais aussi une bonne surprise à la fois, quoi.
Alors, l'odeur, je ne vous cache pas qu'elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est notre volonté à nous, puisque comme c'est un produit 100% naturel, on n'a pas voulu mettre des éléments chimiques. Vous n'avez
pas voulu bonifier le truc, quoi.
Voilà, pour cacher l'odeur.
Ça a un usage.
Voilà, voilà, exactement. Donc, l'odeur n'est pas...
C'est pas du coca, quoi.
Ouais, exactement. Voilà.
Non, si tu veux, c'est quand même un produit. En fait, là où il faut remettre l'odeur dans son contexte, c'est que, par exemple, on a un gros concentré de vitamines. Et à partir du moment où tu concentres des ingrédients comme ça, l'odeur n'est pas un... Soit tu la masques, comme disait Henri, soit tu l'assumes, quoi. Et donc, nous, on a joué cette carte de la transparence.
Et qui, en soi, est un bon choix. Parce que en jouant cette carte de la transparence, tu t'ouvres sur les valeurs du naturel, les valeurs du sans additifs, sans trucs, sans rien. Tu t'ouvres sur cette porte de éco-friendly, en fait.
Voilà, bah, aujourd'hui, on a un produit sur lui qui est certifié 100% naturel sur l'extraction d'ingrédients, etc. Et dont nous sommes assez fiers avec Henri.
Aujourd'hui, votre produit, il est reconnu comment ? Comme un complément alimentaire vraiment ? Parce qu'on peut se dire, ok, c'est sur la Corée du Sud, etc. Mais la Corée, c'est pas la France. Est-ce que quand vous allez, je pense que vous êtes déjà renseigné là-dessus, quand vous allez vraiment commercialiser votre produit, donc, que ce soit les premières boutiques, les premiers magasins, les premiers centres commerciaux, etc. Votre produit, il est connoté comme quoi ? Est-ce que vous avez des labels obligatoires ? Est-ce que vous avez des obligations, comment je pourrais appeler ça, des normes à respecter alimentaires ? Voilà, est-ce qu'il y a des contraintes qui peuvent aussi vous freiner, des barrières juridiques ou légales, de législation qui peuvent un peu vous freiner dans la commercialisation ?
Tout à fait, ouais. Sur l'étiquetage, donc, quand on a fait ce dossier pour la DGCCRF, on s'est rendu compte qu'il y avait une quinzaine de normes obligatoires à appliquer directement sur l'étiquette de
déjà sur l'étiquetage, sur
le marketing. Et notamment, on devait obligatoirement mettre en gras le terme de complément alimentaire.
D'accord.
Directement sur le produit.
Okay.
Donc, c'est considéré aujourd'hui comme un complément alimentaire.
Ok.
Ensuite, un autre travail qui a été fait pour rester justement dans cette case complément alimentaire, ça a été au niveau de la promesse de vente. Okay. C'est-à-dire que ta promesse de vente, c'est quelque chose qui est très importante, qu'il faut travailler énormément et que nous avons développé en collaboration avec un cabinet d'avocats. Un complément alimentaire, ce n'est pas un remède, ce n'est pas un médicament. D'accord. C'est quelque chose qui va agir sur ton bien-être. C'est quelque chose qui va te faire aller mieux, mais par des voies qui sont assez naturelles, finalement. Et donc, c'est là où nous avons fini sur notre promesse, qui est adoucissez vos lendemains de soirée. Tu vois ?
La valeur que vous vouliez donner à votre produit, c'était ça. C'était pas un médicament, c'est pas un truc qu'on va chercher en pharmacie, c'est un truc qu'on peut acheter, qu'on pourra acheter à Auchan, à Carrefour, voilà.
Tout à fait.
Même, pourquoi pas, à Decathlon, voilà, dans tous les canaux de distribution normaux, si vous voulez, pas... En pharmacie ou en parapharmacie, voilà.
Et pour rebondir sur ce que disait Abbé, ouais, effectivement, les promesses de vente, c'est hyper important. Comme tu parlais, pareil, des normes obligatoires sur le complément alimentaire. Il est important, voilà, de lire une notice, comme quand on achète un jouet ou n'importe quel médicament, par exemple. On lit la notice, effectivement, c'est le cas avec notre produit. Il faut bien comprendre qu'avec notre produit, si vous allez boire davantage d'alcool, eh bien, on ne vous garantit pas que vous allez avoir des effets garantis. C'est-à-dire que vous devez vous comporter en soirée comme vous le faisiez auparavant.
Alors, il ne faut pas avoir d'excès juste parce qu'on a la boisson qui va... Ce n'est pas un remède magique non plus, ça reste des choses naturelles qui vont agir, qui vont aider à retrouver la forme, à ne pas subir la gueule de bois comme vous le dites si bien dans vos communiqués, quand vous communiquez via les réseaux. Voilà. Ce n'est pas une formule magique, c'est juste qu'il ne faut pas en abuser. Voilà.
Ouais, bah c'est génial que tu le comprennes du tac au tac. Effectivement, en fait... Il y a des consommations d'alcool sur lesquelles nous, on peut tout simplement pas
agir.
Voilà.
Bien sûr.
Parce que en fait, ton corps n'est pas à même de récupérer sur ce genre de choses. Et nous, il faut savoir que notre produit, de base, on l'a développé pour la gueule de bois que tu vas avoir, mais qui sera raisonnée, si tu veux. Il faut... ces genres d'ingrédients ne peuvent rien faire contre un taux d'alcool.
Faut pas être à 3 grammes 2 heures avant, quoi, sinon c'est impossible.
C'est
une soirée où on va consommer... de façon modérée ou au pire un ou deux verres de plus, mais où on va pas passer la soirée 10 heures au fond, voilà. Vous m'avez compris, quoi. C'est juste histoire de réduire les incidents et les conséquences de l'alcool de la veille. Un truc qui va aider à se sentir mieux, à ne pas subir les maux de tête, les maux de ventre, la déshydratation, etc.
Okay. Tout à fait,
ouais. Ok, bon, bah, on a bien compris Alcool. Maintenant, moi, on va passer un peu à la deuxième partie.
Okay.
Sur le déploiement, voilà, on a compris tout le concept, on a compris d'où ça vient, comment c'est fabriqué, etc., etc. Maintenant, moi, j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, Alcool, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est pas commercialisé. Voilà.
Non,
aujourd'hui, on peut pas l'acheter. aujourd'hui, comment vous... Donc, aujourd'hui, vous êtes encore en train de travailler sur la future commercialisation, mais aujourd'hui, comment vous vous déployez? Donc, vous êtes en train de vous construire une communauté de base. Vous allez pouvoir en parler. Vous allez aussi lancer une campagne de crowdfunding sur Ulule, c'est ça?
Tout à fait.
Donc, aujourd'hui, Alcool, qu'est-ce que c'est? Comment ça se déploie et qu'est-ce que vous essayez de construire avant de commercialiser vos produits? Les réseaux sociaux, un site internet, voilà. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Alcool, concrètement?
Donc, effectivement, aujourd'hui, donc, on crée Alcool, c'est une start-up, mais avant tout, j'ai envie de vous dire que c'est un DNVB. DNVB pour Digital Native Vertical Brand. Et nous, en fait, on veut créer un DNVB absolument en mettant l'accent sur la communauté dont tu parlais. Et aujourd'hui, voilà, on est assez fiers d'avoir un très beau, par exemple, compte Instagram, qui a aujourd'hui d'ailleurs atteint les 1000 abonnés alors qu'on n'a pas encore lancé la campagne de crowdfunding. Et vraiment, c'est une volonté de créer Alcool avec la communauté, d'avoir leur ressenti, leur poser des questions, d'échanger pour savoir ce qu'ils attendent en retour. Donc nous, on a créé Alcool avec cette communauté, avec leurs besoins.
Ok, donc in fine, aujourd'hui, c'est un déploiement sur les réseaux sociaux.
Sur les partenaires, on développe beaucoup de choses. Donc on va avoir cette campagne de crowdfunding qui va arriver le 5 novembre, qui se finira le 5 décembre, sur laquelle, en fait, on compte énormément pour commencer à gagner
en visibilité, en communauté. Ouais.
Voilà. En parallèle à cela, on développe plein d'autres canaux de distribution. Le premier, forcément, tu vois, nous on veut toucher les étudiants, nous sommes des étudiants. Donc là, on est en train de développer des partenariats avec les BDE au sein de la France. Notre idée qu'on veut mettre en place, c'est de développer en chaque début de mois, sur la première semaine, le concours Alcool un peu. Le but, c'est de créer un partenariat entre eux, qui est une course sur le concours. Et c'est le BDE qui aura passé le plus grand nombre de commandes, qui aura le plus grand prix.
Voilà. Okay.
Donc ça, c'est vraiment notre premier déploiement pour aller attaquer la communauté étudiante.
D'accord.
En parallèle à cela, on a aussi tout ce qui est event planner, parce que y a en fait une clientèle énorme, notamment avec les wedding planners. Je ne sais pas si tu as déjà fait des mariages de 2 jours ou ce genre de choses. Bon, ça a été l'idée d'Henri qui a constaté qu'en fait, le lendemain matin au brunch, t'en as pas mal qui tirent un peu la tronche.
Okay.
Et c'est comme ça qu'on s'est fait démarcher par des wedding planners. Et enfin, un autre canal de distribution auquel nous avons pensé, c'est tout ce qui est bar, rooftop, etc., un peu branché. Sur lequel on aimerait bien mettre en avant notre produit. Ça, c'est quelque chose que nous ferons dans un second temps, une fois que nous aurons acquis une base clientèle plus importante. Mm-hmm. Sur les bars, nous, l'idée, en fait, la chose qu'on a pu observer, c'est que parfois, tu vas avoir un bar d'anniversaire ou un after work, ce genre de choses. Tu es obligé d'y aller parce que c'est ton meilleur pote, parce que c'est ta boîte. Mais en même temps, c'est un peu compliqué parce que le lendemain, tu as cours à 8h30 ou tu travailles. Et donc, si tu veux, tu vas te prendre 2, 3 bières, je sais pas, ou 4. Et tu sais que le lendemain, tu vas avoir mal à la tête. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que tu prends ces bières, mais tu vois, le bar, il a Alcool à te proposer. Et tu finis ton bar, tu prends Alcool, et le lendemain, t'es nickel au réveil.
Ok, donc vous voulez aussi faire comprendre cette valeur aux distributeurs. Il faut que les distributeurs, les supermarchés, etc., c'est impossible, mais en tout cas, les distributeurs qui ont la proximité avec leurs clients, il faut qu'ils aient compris aussi qu'ils ont le produit qui peut. Parce que eux, le but, ils finissent, c'est de vendre des choses. Donc, s'ils peuvent vendre un truc. Parce qu'ils savent que ça va aider toutes les personnes qui boivent, ils vont vous aider aussi à le vendre via leur distribution. Donc il faut aussi que les bars, les barman comprennent la valeur de votre truc pour le proposer aux personnes susceptibles d'être intéressées. Quoi.
C'est exactement ça.
Faire comprendre la valeur perçue au distributeur.
Mmh.
Ok. Aujourd'hui, c'est quoi les compétences pour créer Alcool? Les compétences. Alors quand je dis compétences, parce que voilà, là on est à Station F, il y a plein de boîtes tech, donc il faut du développeur, il faut du biz développeur, voilà, il faut un graphiste, il faut un community manager, voilà. Aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de compétences tech, vous n'avez pas besoin vraiment de dev, c'est pour ça d'où ma question. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un site internet qui est prévu, je pense, quand la commercialisation des produits sera prête pour vendre les produits? Ça, comment ça va se passer? Alors justement, ma question c'est aujourd'hui, vous, est-ce que vous savez un peu qui va s'occuper de quoi, les compétences que vous avez en design, en web, s'il y a un marketeur parmi vous? Voilà, c'est quoi aujourd'hui? Comment ça va se répartir ces tâches-là? Quand vraiment faudra passer à l'action sur le marché?
C'est vrai qu'en apparence, on dirait qu'on a le même profil parce qu'on est dans la même école de commerce. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire une nouvelle fois qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de skills pour monter une start-up puisqu'on va les apprendre au fur et à mesure et de jour en jour. Donc aujourd'hui, voilà, on a essayé de se diviser en deux parties, donc comme on est deux, les travaux. Et donc moi, je vais m'occuper par exemple plus du voilà tout ce qui est marketing, image de marque, réseaux sociaux, tout simplement parce que ça m'intéresse. Et à l'inverse, AB, comme il a étudié davantage à Dauphine la finance, il va s'occuper de tout ce qui est compte, également voilà la logistique. Mais il n'y a jamais eu aucun problème là-dessus. Sur
non, c'est, non le but, c'est pas savoir s'il y a eu un problème ou pas. Le but, c'est quand vous allez vraiment passer à l'action sur le marché, comment vous allez vous parler. Est-ce que vous allez rester deux? Est-ce que vous avez déjà des pistes sur des potes, sur des collègues à faire rentrer ou des gens qui travaillent déjà avec vous qui voudraient peut-être rentrer après dans la boîte? Ma question, c'était juste comment vous allez vous répartir les tâches, qui sait faire quoi? Voilà, c'est ça, c'était ça ma question.
Donc, du coup, comme te disait Henri, les tâches se sont réparties de cette façon au départ. Donc, pour avoir cet aspect d'INBB, c'est forcément très important d'avoir un community manager qui sait s'y prendre. Donc Henri, je pense qu'il y a le côté voilà, créatif de la boîte, a pris du plaisir à créer cette communauté, à poster sur Instagram, ce genre de choses. Moi, c'est vrai qu'en contrepartie, je me suis occupé des prévisions financières. Je pense que mon expérience, mon expérience associative m'a aussi énormément apporté pour réfléchir un peu aux stratégies de partenariat. Tu vois, typiquement, tous ces partenariats que nous allons mettre en place avec les BDE, sont des choses que j'ai pu faire, mais quand j'étais de l'autre côté. Donc, je sais comment ça se passe. Ensuite, pour le déploiement sur le marché, c'est un peu bizarre à dire, mais ça, t'as pas besoin de skills, faut juste avoir faim. Faut juste avoir faim et te dire, bah lui, je peux l'intéresser et je vais l'intéresser.
Mais
alors,
ma question, du coup, évidemment, faut juste avoir faim, mais voilà, ma question, c'était, vous allez avoir un site internet? Oui. Ok, ouais. Il va être propulsé comment?
Alors, le site aujourd'hui, c'est hyper simple à faire. Donc, il y a deux manières. Bien sûr. C'est soit on utilise tout ce qui est Shopify, Wix, soit on intègre un développeur ou on embauche. Et nous, on a fait le choix de la facilité parce qu'aujourd'hui, quand on est un DNVB et quand on est une boîte de e-commerce, un site Shopify suffit amplement.
Facilité ne veut pas dire mauvaise qualité du tout. Du tout. C'est juste une volonté de ne pas encore intégrer un dev qui va coûter, qui va peut-être faire un truc qui ne convient pas et qui va donc perdre du temps, alors qu'aujourd'hui avec un Shopify, quand on maîtrise bien la plateforme, elle est pas, et d'ailleurs c'est pour ça que ça marche tellement, ça permet à des startups de se lancer, de vendre un produit de façon vraiment très qualifiée, quoi. Donc il n'y a aucun souci avec ce genre de facilité, c'est même pas une facilité, c'est juste une alternative qui est top. Ouais. Voilà.
En fait, je dirais, pour rebondir sur ta question de recrutement et sur cette question de site internet, le but de ton recrutement, c'est qu'il te fasse gagner du temps et qu'il te fasse gagner de l'argent, tu vois. Donc aujourd'hui, tu recrutes un dev, déjà le mec il va te coûter très cher. Nous, on n'a pas de fonds. Ensuite, le mec il va te coûter beaucoup de temps parce qu'il va falloir tout le temps checker ce qu'il fait. Ensuite, le mec il va finir avec un site, mais au final, toi tu as besoin d'une plateforme d'e-commerce. Donc, si tu veux, le coût d'opportunité sur l'opération il n'est pas si important que ça. Par contre, nous on a décidé d'employer, si tu veux, deux business développeurs. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mecs justement qui ont faim. Et on a besoin de mecs qui vont aller nous chercher du client. Et là, c'est important. Et là, on va gagner du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura monté ces partenariats avec les 10 BDE, nous, au début, on va s'atteler à la tâche. Aujourd'hui, je les appelle. Aujourd'hui, on prend le temps d'échanger ensemble. Mais une fois que ces concours vont être lancés, nous, on ne pourra plus être là-dedans. On ne pourra pas appeler toutes les semaines 10 écoles. Donc là, oui, on a besoin de personnes. Et là, ça a de l'intérêt.
Pour conclure, je crois que c'est AB qui m'en a parlé tout à l'heure. Vous avez lancé donc une campagne de crowdfunding, de financement participatif sur Ulule. Est-ce que vous pouvez me dire donc combien vous avez demandé? Pourquoi les gens qui vont participer, ils vont aider à faire quoi? Le lancement, la production de bouteilles, la commercialisation, parce que voilà, tout ça, c'est des frais. Et quelles seront les contreparties que les gens vont avoir à vous financer? Allez-y.
Alors, pour commencer, Henri reviendra plus en détail là-dessus parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise plus que moi. L'intérêt déjà d'une campagne Ulule, c'est de mettre ton produit en avant. C'est un peu un relais de communication. C'est pour ça que Ulule se permet de te prendre une commission d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pourquoi Ulule? C'est aussi parce que nous sommes pour l'instant des étudiants. On a déjà investi pas mal d'argent dans notre boîte. Et si tu veux, on arrive un peu à court de notre livret A. Et là, mais c'est la vérité parce que c'est un problème auquel tu ne fais pas forcément face quand tu as eu un CDI avant ou ce genre de choses, mais quand tu es étudiant et que tous tes cadeaux d'anniversaire et Noël, ils passent à la trappe, au bout d'un moment, t'as plus rien, quoi. Donc là, on a une grosse commande de 10 000 bouteilles qui doit arriver. Et si tu veux, nous, on a besoin de notre entourage, on a besoin de tout le monde pour la financer. Parce qu'on n'est plus à même de le faire nous-mêmes. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, il nous faut des milliers de personnes derrière nous, si tu veux, pour passer cette commande et enfin attaquer le marché avec eux.
Et en plus de ça, c'est un levier de communauté, c'est un levier de conscience. Voilà, ce produit-là va arriver, ça existe, ça m'intéresse, c'est cool, c'est une putain de démarche, c'est à moitié RSE. Enfin voilà, c'est un truc qui vraiment, c'est aussi là que vous allez grab un peu toutes les personnes qui vont kiffer le concept de votre truc et qui vont aussi découvrir. Parce qu'en France, moi par exemple, il y a un mois, tu me dis qu'il y a une boisson que je peux boire pour m'éviter d'avoir un peu moins à la tête et mal le lendemain, je vais pas te croire en fait. Vraiment, je vais pas te croire. Okay. Alors qu'aujourd'hui, tu me dis que ça existe vraiment en Corée du Sud, que le marché est établi, etc. Bah là, je vais te croire parce que j'ai les faits en face de moi. Et puis je vais goûter, je vais boire et puis je vais... Ah, tu vois. Donc effectivement. Ok, donc quelles seront les contreparties du coup? Alors, combien vous allez demander et quelles seront les contreparties? Et les différentes marches, si vous les connaissez déjà. La campagne va se lancer quand? Le 5 novembre?
Le mardi 5 novembre.
Le mardi 5 novembre 2019. Et donc du coup, combien et les contreparties?
Alors combien, si tu veux, c'est...
En fourchette, si tu veux.
Ouais. Nous, en fait, le but, c'est vraiment d'amasser le plus possible. Je pense que... à voir si on arrive à financer toute notre commande avec cette campagne. Il nous faut plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, c'est toujours compliqué de savoir comment ça va se passer. Cette campagne, si tu veux, elle va nous permettre de passer la commande de ces premières 10 000 bouteilles. Et pour ce faire, il nous faut une dizaine de milliers d'euros.
Ok, les contreparties, Henri ?
Alors effectivement, on s'est inspiré de quelques campagnes de crowdfunding sur Ulule qui ont cartonné, dont notamment bon, Respire, que tout le monde connaît, et ainsi que Oumai, les shampoings naturels. Et on a remarqué qu'il y avait plusieurs tranches voilà, pour les coffrets, ce n'était vraiment pas anodin, dont notamment le premier coffret qui est toujours autour de 15 euros, donc nous sera notre cas, dans lequel on va vous offrir une bouteille ainsi qu'un décapsuleur personnalisé et forcément la livraison à domicile, donc ça c'est exceptionnel. Ensuite, vous pourrez avoir 3 bouteilles pour 30 euros, et ensuite 6 bouteilles pour 50 euros. Et à chaque fois, on rajoute des goodies assez intéressants, comme notamment des tote bags avec des mots assez sympas comme voilà, la seule arme que j'ai en soirée, c'est mon tire-bouchon, ou quelque chose assez humoristique pour essayer de créer une communauté autour de ça. Et ensuite, quelque chose qui marche beaucoup, on avait vu ça avec le magazine Widen de start-up, c'est d'afficher carrément le nom de ceux qui ont acheté des coffrets sur notre site internet. Comme voilà, pour créer un Hall of Fame et pour que les gens voilà, se reconnaissent sur le site internet.
Que les fondateurs, ceux qui ont permis le début de la boîte, soient valorisés en fait, pour toujours sur le site internet, comme les premiers, ceux qui ont fait le pas en fait, pour acheter Alcool.
Exactement. Ouais.
Et bah écoutez, je pense qu'on a bien compris Alcool, qui vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que ça va être, comment vous allez commercialiser, etc. Maintenant, on va commencer à conclure, donc on va rentrer dans les questions que j'ai l'habitude de poser à tous les entrepreneurs que je reçois dans mes podcasts. La première, c'est est-ce que vous faites de la veille? Donc de la veille par rapport à votre secteur, par rapport à votre solution, des possibles entrants sur le marché, des possibles alternatives, des substitutions de ce que vous allez proposer. Vous m'avez dit qu'en France, il n'y a pas, alors je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en France, il n'y a pas vraiment de solution alternative à la gueule de bois à part les remèdes de grand-mère et ne pas boire, voilà, tout simplement, ou alors boire beaucoup d'eau avant de dormir, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'alternative vendu dans le commerce. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous faites de la veille? Est-ce que vous êtes organisé pour connaître un peu l'écosystème qui vit de jour en jour autour de votre future entreprise, de votre activité, pour, comme je vous l'ai dit, la concurrence, de la veille concurrentielle, de la veille technologique sur les possibles aussi, si ça peut être une boisson, ça peut être autre chose. Vous avez décelé que ça sera plus pertinent de le mettre sur le marché en tant que boisson. Mais est-ce que voilà, vous documentez continuellement sur votre environnement, en fait, sur l'environnement de votre boîte?
Alors concernant... la veille, oui, c'est quelque chose de très important à faire, forcément. Parce que un jour, un entrepreneur m'a dit ok, certes, toi tu disruptes, mais en fait, si tu vas pas assez vite, c'est toi qui vas te faire disrupter. Donc, c'est toujours important de voir ce qui se passe sur le marché. Et cette veille, si on a fait un gros travail au préalable là-dessus, pour regarder un peu qu'est-ce qui se passait sur les marchés américains, espagnols, etc. Donc, on a des boîtes qu'on suit, forcément, sur lesquelles on s'inspire aussi, forcément. Parce que
sur les réseaux, t'as pas mis de bot Slack, t'as pas de Flipboard, t'as pas de Feedly, t'as pas de... Tu regardes sur Twitter, voilà. Comment vous... En fait, ça aussi, le truc. Donc, ok, vous faites de la veille. Donc, tu regardes un peu ce qui se fait sur les marchés étrangers, etc., sur des trucs comme votre produit. Mais du coup, comment ça s'organise vraiment? C'est quand vous avez envie de le faire, vous le faites, ou c'est vraiment c'est rythmé, c'est organisé, voilà?
Abel l'a très bien dit. On regarde un peu ce qui se passe autour de nous, mais il ne faut pas en faire trop. Ça serait l'erreur, parce que si on en fait trop, eh bien, on risque effectivement de se faire disrupter et de ne pas aller assez vite. Je pense que quand on a un produit comme le nôtre, Il faut simplement savoir le développer et le vendre. Donc aujourd'hui, simplement, on regarde les newsletters des médias digitaux comme Madines, Widen et après aussi French Tech, des choses assez simples.
Ok, donc moi, la dernière question avant de conclure, c'est est-ce que vous aviez un a priori sur l'entrepreneuriat avant d'y être ? Bon, on est tous jeunes là, mais est-ce que par exemple, quand vous aviez 18 ans, on l'a dit, vous avez toujours eu ce mindset d'entrepreneur, mais est-ce que maintenant que vous avez fait plein de démarches, vous avez mis de l'argent, vous avez mis de l'énergie, vous êtes à temps plein là-dessus, est-ce que maintenant que vous êtes dans la réalité de la chose, dans la difficulté de la chose, mais aussi dans le plaisir de la chose, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait peut-être des idées reçues que vous aviez ou des a priori, des ressentis qu'aujourd'hui ont soit disparu, soit se sont confirmés ? Quel est, si vous voulez, le delta entre l'avant et après, maintenant que vous êtes dedans ?
Ouais, c'est une très très bonne question et je pense que c'est un peu ce que la plupart des gens se demandent avant de lancer leur boîte. Moi, j'ai eu des idées de boîte très 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 jeune, hein, vers mes 17 ans, dès que je suis rentré à la fac. Et en fait, au début, quand tu as une idée, tu te dis, c'est bon, en fait, moi je veux faire ça, j'ai juste à le faire comme ça. Et t'as l'impression que c'est tout droit. La chose qui change quand tu montes ta boîte, c'est que tu te rends compte qu'il y a certes un chemin pour y aller, mais il y a tellement de détours pour y arriver, c'est un enfer. Et du coup, ce qui est assez énorme et formateur dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, ces détours, tu les subis plus, mais tu les incorpores directement sur ta ligne directrice. Et je pense que c'est là la véritable force de l'entrepreneuriat. C'est de prévoir et de réagir en avance et en conséquence.
Henri, quelque chose à rajouter après ce beau discours ?
Je suis entièrement d'accord avec KB, il a tout résumé. Mais un conseil qu'on pourrait donner à des jeunes qui veulent aussi entreprendre, c'est allez-y. Vous avez une intuition, vous avez une idée, foncez-y. Ne réfléchissez pas trop, justement. Vous allez perdre du temps. Et surtout, allez-y parce que vous risquez au final de regretter de ne pas avoir fait cette aventure entrepreneuriale. Vous allez le regretter une fois que vous travaillerez dans des secteurs dans lesquels vous n'allez pas vous y plaire.
Ok, et bah Henri, AB, moi je vous remercie d'avoir accepté de faire le podcast et puis de l'avoir enregistré ici à Station F. Où c'est qu'on peut suivre Alcool aujourd'hui ? Sur YouTube ? Non, sur Facebook ? Où c'est qu'on peut vous retrouver ? Pour suivre un peu votre actu, ce qui va arriver, la campagne de financement, participer à tout ça, où on peut vous retrouver ?
Alors, dès le 5 novembre, effectivement, on sera sur la campagne de crowdfunding Ulule à 10h. Et après, vous pouvez nous suivre, effectivement, sur Facebook et sur Instagram, alcool.fr, voilà le compte.
Non, c'est pas vous pouvez, c'est à l'issue de ce podcast, vous allez sur Instagram et vous suivez notre page, s'il vous plaît. Il y a plein de choses superbes qui se passent, Henri, il se casse la tête, vous allez vous régler.
Voilà, il a tout dit. Bah, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur twostep.fr ou alors sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, de partout. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez aimé, à le partager si vous êtes entrepreneur sur votre réseau ou à tous vos amis entrepreneurs, aux curieux, aux désireux d'entrepreneuriat, toutes les personnes qui hésitent à se lancer ou pas. Et voilà, écoutez, moi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine. Au revoir.
Merci Bastien.
Merci Bastien.